France Inter. Les admirations littéraires de
Jacques Weber. Voilà. Je manque d'originalité, mais c'est vrai que j'ai immédiatement choisi, lorsqu'on m'a demandé mes préférences, mes admirations littéraires, j'ai commencé par Cyrano de Bergerac. Alors ça n'a rien de surprenant, mais pourquoi ? D'abord parce que je trouve qu'il y a de légitimité à parler d'une pièce qui est connue de tous et de chacun, à des niveaux différents bien évidemment, mais quelle que soit la classe sociale, je ne sais plus quelle critique avait écrit, Cyrano est une pièce qui a l'intérêt particulier de plaire à Sartre et à Sabonne. Ça n'est pas tellement gentil pour la bonne, ni peut-être pour Sartre, mais toujours est-il que c'est une vérité première. La deuxième chose, c'est que j'ai pu me rendre compte à quel point ça restait une sorte de, non pas de cicatrice, mais de chose très 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 marquée chez moi depuis que je l'ai joué au Théâtre Mogador près de 500 fois. Et dans la version symphonique, la vraie version de Cyrano, je crois que nous sommes les seuls à l'avoir joué dans son intégralité, avec la mise en scène merveilleuse de Jérôme Savary, mise en scène poétique, naïve, et peut-être que je me suis dit, après tout, 50 ans plus tard, avec le poids de l'expérience, de la vie et du métier, c'est plutôt joli d'y revenir avec une voix différente, un peu usée, avec un corps différent qui ne peut plus tout faire, et surtout dans un contexte plus intime. Et ce micro de la radio que j'aime tant, permet peut-être d'aller entendre à l'intérieur du texte autre chose que le rythme un peu déclamatoire auquel il nous oblige lorsqu'on le joue dans une grande salle et dans sa version originale. Je me rends compte en vous parlant que, comme toutes les œuvres célèbres, elles sont mal connues. On dit « Ah, bah Cyrano, je connais », et puis on vous cite un petit vers de la tirade d'Énée. Il faut quand même retrouver quelle est l'histoire de ce Cyrano. D'abord, il faut dire que Cyrano est un personnage qui a existé. C'était un pamphlétaire déjà reconnu, rebelle, provocateur, gassendiste, c'est-à-dire dans le mouvement de pensée de Molière, entre autres. Et il a décidé d'expulser d'un théâtre, c'est comme ça que la pièce commence, Montfleury, une grosse vedette parisienne. Et à partir de là, on rentre dans une intrigue très très romanesque. Roxane, sa cousine, tombe amoureuse d'un monsieur qui ne sait pas trop parler, qui vient un peu de la campagne. Cyrano est fou amoureux de sa cousine. Les deux êtres, le très beau et l'homme qui sait parler, vont se rencontrer. Et pour séduire, conquérir à deux, Cyrano le dit bien, Roxane, ils vont signer une sorte de pacte entre eux, d'échange entre l'esprit et la beauté. Ça va naturellement mener à des catastrophes, puisque c'est parfaitement pas naturel. On se retrouve au siège d'Arras, où le massacre plus ou moins organisé par le comte de Guiche, autre prétendant malheureux de Roxane, et Christian qui s'est rendu compte que, décidément, Roxane préférait Cyrano et ses lettres, et préférait les mots à sa beauté, Christian décide de se donner la mort. Il fonce vers les premières lignes et c'est ni plus ni moins un suicide. Et la pièce se conclut par le couvent où est décidément recluse Roxane. Cyrano vient la voir. Il a été blessé à mort par un attentat qui d'ailleurs est authentifié dans l'histoire de Cyrano. Et il se confesse en lisant la lettre qu'il avait prévue pour les adieux de Christian à Roxane. Et la pièce se termine sur ce mot célèbre. « Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose arrachée, il y a malgré vous quelque chose que j'emporte, et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu, quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous, et c'est, et naturellement ce mot, et c'est mon panache. » Je crois que l'un des moments qui peut-être résume le plus mon attachement bizarre auquel je ne comprends pas encore tout, j'ai encore le temps. Avec Cyrano, c'est peut-être un moment dans le troisième acte. Je ne m'en voulais pas, je ne vais pas du tout être dans un ordre chronologique, mais dans l'ordre que le cœur m'impose. Et dans ce troisième acte, il y a un moment qui me fait penser énormément à la réflexion de l'acteur. Cyrano parle à la place de Christian, donc il joue un rôle, et il est dans l'obscurité. Cette fameuse obscurité contre lequel ou avec laquelle on joue au théâtre. Et il dit la chose suivante. Mais dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même. Et j'ose... Où en étais-je ? Je ne sais. Tout ceci, pardonnez mon émoi, c'est si délicieux. C'est si nouveau pour moi. Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillé, toujours au cœur me serre. Raillé, raillé, mais de quoi ? Raillé, mais de... d'un élan. Oui, mon cœur de mon esprit s'habille par pudeur. Je pars pour décrocher l'étoile et je m'arrête. Peur du ridicule, accueillir la fleurette. La fleurette a du bon, ce soir dédaignons-la. Ah, si loin des carquois, des torches et des flèches, on se sauvait un peu vers des choses plus fraîches. Dans ce court passage de Cyrano, tellement de choses sont dites. Entre autres, une qui peut surprendre, c'est cette façon dont Rostand a de se critiquer lui-même. Il dit, je vous en prie, ce que je voudrais tellement m'éloigner de mon propre style, comme je voudrais, comme on le dit de nos jours, aller à l'os, ne plus truffer d'adjectifs et de surplomb ultra-romantique et mélodramatique, tous mes vers, assis loin des carquois, des torches et des flèches, on se sauvait un peu vers des choses plus fraîches. Et puis, cette chose qui me tient particulièrement à cœur, la peur d'être raillé, toujours au cœur me serre. Et j'ai souvent senti qu'il s'agisse de mes camarades, de mes amis, de mes admirations aussi, et en tout cas de moi-même, que souvent nous venions en scène pour se battre contre une blessure, contre une forme d'inconfiance absolue. Et je trouve que oui, moi j'ai toujours eu peur qu'on se moque de moi, lorsque j'étais enfant. Voilà un des premiers extraits. Je trouve que celui-ci, à partir de... irradie tout le reste de la pièce. Et au cinquième acte, Roxane a été, ni plus ni moins, par ce pacte faustien, condamnée à être dans un couvent. Cyrano vient la voir, il la subit, ce qui est aussi une histoire vraie, un attentat, on ne sait pas tout à fait d'où ça vient. Il sait qu'il va mourir, et enfin, il se confesse. Et dans ce cinquième acte dont je viens de parler, pour ma part, je crois que c'est De Guiche qui dit ce qui compte parmi les plus beaux vers à mes yeux, c'est un constat sur la vie. Et il dit très simplement... Voyez-vous, lorsqu'on a trop réussi sa vie, on sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, mille petits dégoûts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. Et les manteaux de duc traînent dans leur fourrure, tandis que des grandeurs, on monte des degrés, un bruit d'illusions sèches et de regrets. Et Roxane dit, je crois que c'est une des grandes majestés de l'œuvre. Vous voilà bien rêveur. Eh oui. Et je pense que ce « et oui » conclut parfaitement ce sorte de choses nuagères, oui, ce rêve dans lequel la pièce Cyrano nous a embarqués.
change de cavalier, on change de partenaire, mais on ne sait plus danser que comme des solitaires. On nous sent à plein nez, ça se voit à notre air qu'on est un peu paumé, qu'on est célibataire. Qui nous aime ici-bas, ici même? Qui nous aime, qui nous lave de nos peines? Qui nous aime ici-bas, ici même? On ne fait qu'y penser, on retourne tous nos travers. Qu'est-ce qui peut clocher? Qu'est-ce qu'on ne sait plus faire? On n'ose plus s'approcher trop près de la lumière pour ne pas faire remarquer qu'on est solitaire. Qui nous aime ici-bas, ici même? Qui nous aime, qui nous lave de nos peines? Qui nous aime ici-bas, ici même? Un peu largué, on n'a plus les repères pour se faire consoler de ce qu'on avait dans le cœur. On ne veut pas pleurer, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus embrasser que des courants d'air. Qui nous aime ici-bas, ici même? Qui nous lave quand on saigne? Aime, ici-bas, ici même. Ici-bas, ici même. On s'égare, on se parsème, on ne sait plus à qui dire je t'aime. On s'égare, on se parsème, on ne sait plus. Plus à qui dire je t'aime.
Jacques Weber lit Cyrano de Bergerac.
Ici-bas, ici même.
Vous avez un nez. Un nez très grand. Très.
C'est tout?
Mais.
Oh non. C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire. Oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton. Agressif.
Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse.
Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nap. Descriptif.
C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule.
Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux? Que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes.
Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol.
Dramatique.
C'est la mer rouge quand il saigne.
Admiratif. Pour un parfumeur. Quelle enseigne. Voilà.
On ne peut pas parler toujours de Cyrano en ne citant uniquement que la tirade des nez. Je n'ai rien contre elle, hein. Bien au contraire, si elle est tant aimée, c'est qu'elle a une qualité. Ben, elle a la qualité, à mon avis, d'un sketch, d'une fanfare sympathique et joyeuse, mais pour moi, elle n'est pas très en situation. Et je dis oui qu'elle est une sorte de gros pâté, enfin de grosse tâche dans un acte qui lui a ce vibrionisme, ce charme extraordinaire de l'allegro vivace. Pourquoi je dis ça? Non, on ne peut pas se contenter de ça. Il y a une autre tirade, je n'aime pas le terme, mais je n'en trouve pas d'autre, merveilleuse, et qui fait penser au grand personnage de révolte, de rébellion dont nous avons tant besoin, particulièrement en ce moment, et c'est la tirade dite des non-merci. Quelqu'un qui est Lebray, qui est son meilleur ami, lui dit, mais enfin, si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune, la gloire, que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant. Prendre un patron. Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, oligueux de s'élever par force, non, merci. Dédié, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître enfin un sourire qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. D'une main flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou, et donneur de séné, par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelques barbes. Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant. Non, merci, c'est les faire nommer pape par les conciles que dans les cabarets tiennent des imbéciles. Non, merci, ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse, oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François, non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter. Non, merci, non, merci, non, merci, mais chanter, rêver, rire, passer, être seul. Être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un verre. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Naturellement, je crois que Cyrano veut dire par là « Je préfère ne pas jouer le jeu du paraître, lécher les bottes des puissants et avoir une destinée moyenne, en tout cas sur le plan social. Je préfère ça, c'est dans ce sens-là. Parce que sinon, si on reprend la phrase et ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul, nous ne sommes jamais seuls. C'est toujours un groupe de gens qui crée quelque chose. Et la solitude pure et simple n'existe pas. Ne serait-ce que parce que la plupart du temps, on est face à nous-mêmes. Et son double, c'est déjà quelqu'un d'autre. Ça n'est pas la réalité. Le calque est toujours déjà falsifié, comme on dit. Dans Cyrano, Il y a des petits moments qui sont coupés, d'ailleurs, car la représentation est trop longue. Moi, j'avais été effrayé lorsque j'avais su qu'il y avait 1400 vers à apprendre pour jouer le rôle de Cyrano. Et entre autres, il y a un moment que je trouve extrêmement beau et peut-être poétique comme une jolie chanson, comme une petite valse, quelque chose de schubertien presque, qui introduit le deuxième acte où, enfin, Cyrano rencontre Roxane et c'est celle que je vais vous lire maintenant. Mais je voulais vous lire d'abord ce petit présentation. À Paris fuit, nocturne et quasi nébuleux. Le clair de lune coule aux pentes des toits bleus. Un cadre se prépare exquis pour cette scène. Là-bas, sous des vapeurs en écharpe, la scène comme un mystérieux et magique miroir tremble. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Cyrano se prépare, il est seul, il attend. Naturellement, il est arrivé en avance. Il attend Roxane. Et puis elle arrive. Et cet homme, champion des mots, à chaque fois que Roxane arrive, il perd ses mots. Il bafouille. Il y a plein de points de suspension. Que l'instant, entre tous les instants, soit béni. Ou... cessant d'oublier qu'humblement je respire. Vous veniez jusqu'ici pour me dire. Me dire. Mais tout d'abord merci. Car ce drôle, ce fac au brave jeu d'épée, hier vous avez fait mat. C'est lui qu'un grand seigneur épris de moi, de Guiche, cherchait à m'imposer. Comme mari. Postiche, je me suis donc battu, madame, et c'est tant mieux, non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Puis, je voulais, mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère avec qui je jouais dans le parc, près du lac. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées. C'était le temps des jeux, des murons et grelets. Chut. Roxane, mais vous dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. À présent, j'ose, car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant, voilà. J'aime quelqu'un. Ah. Qui ne le sait pas, d'ailleurs. Ah. Pas encore. Ah. Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Ah. Un pauvre garçon qui, jusqu'ici, m'aima timidement, sans oser le dire. Ah. Et figurez-vous, tenez justement, oui, mon cousin, il sert dans votre régiment. Ah, puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Ah, il a sur son front de l'esprit du génie. Il est fier, jeune, noble, intrépide, beau, beau. Et quoi qu'avez-vous ? Moi, rien, c'est ce beau, ce mot. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc pas parlé ? Nos yeux seuls. Il est cadet ? Cadet aux gardes. Son nom ? Baron Christian de Neuvillette. Hein ? Mais n'est pas au cadet. Si, depuis ce matin. Capitaine Carbon de Casteljaloux. Et vite, vite, on lance son cœur. Mais ma pauvre petite, ma pauvre enfant. Vous qui n'aimez que beau langage, bel esprit, si c'était un profane, un sauvage. Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Si c'était un sot, eh bien j'en mourrais. Là. C'est bien, je défendrai votre petit baron. Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit, vraiment, ce dut être inouï. Dites-lui qu'il m'écrive. Oh, je vous aime. Oui, oui. 100 hommes contre vous. Allons, adieu, nous sommes de grands amis. Oui, oui. Qu'il m'écrive. 100 hommes. Vous me direz plus tard, maintenant je ne puis. 100 hommes. Quel courage. Oh, j'ai fait mieux depuis. Et j'ai choisi cette scène qui est assez difficile d'ailleurs à reconstituer. J'ai fait des coupes, vous m'en voudrez pas. Mais parce qu'elle a vraiment d'extraordinaire, c'est cette audace d'avoir uniquement décliné et fait jouer la partition de Cyrano, l'évolution des sentiments, de la surprise, de l'émoi, sur une note qui est le A. Alors là, il y a bien des versions qui s'affrontent entre comédiens, très compliquées. Doit-on nuancer à l'extrême chaque A? Je ne le crois pas. Doit-on les grimacer? Je ne le crois pas. Peut-être ce qui est beau, c'est justement cette sorte de nudité absolue du A. Cette sorte d'état de sidération de ce qui se passe entre d'abord cet amour qui est confessé et cet amour qui lui échappe. Je crois que c'est une grande scène de théâtre. On ne peut pas non plus évoquer Cyrano sans évoquer ce lien extrêmement fort qu'il y a entre Lebray, qui est réellement son meilleur ami, et lui. Lebray est une sorte d'accoucheur, c'est à lui qu'il va confesser son amour, c'est à lui qu'il va confesser ses drames les plus profonds, c'est devant lui peut-être qu'il va s'écrouler en larmes, et Lebray est toujours très pragmatique, il faut s'en sortir. Et à un moment donné, il lui dit, mais ne pas, alors l'autre lui dit, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul soit, mais non pas contre tous. Comment diable as-tu contracté la manie effroyable de faire toujours partout des ennemis, à force de voir vous faire des amis. Et rire à ces amis dont vous avez des foules, d'une bouche empruntée au derrière des poules. Mais quelle aberration! Eh bien oui, c'est mon vice. Et plaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse, mon cher. Si tu savais comme l'on marche mieux sous la pistoletade excitante des yeux comme sur les pourpoints font d'amusantes taches le fiel des envieux et la bave des lâches. Vous, la molle amitié dont vous vous entourez ressemble à ces grands cols d'Italie ajourés et flottants dans lesquels votre cou s'effémine. On y est plus à l'aise et de moins haute mine. Car le front n'ayant pas de maintien ni de loi s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine chaque jour me tuyote et m'apprête, la fraise dont l'emploi force à lever la tête. Chaque ennemi de plus est un nouveau gaudron qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon, car pareil en tout point à la fraise espagnole, la haine est un carcan. Mais c'est une auréole. Effet, tout l'orgueilleux et la mer, mais tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi. Et j'ai choisi ce petit extrait qui est très souvent coupé parce que d'abord, il y a une adjectivation et des termes que les gens ne comprennent plus. Et puis, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus léger dans l'élégance de l'alexandrin. Mais il n'en est pas moins vrai que ce déchaînement, ce recours à la haine pour réaffronter le monde est extrêmement intéressant, passionnant par rapport à ce personnage pour lequel on a quand même une sorte en permanence d'amour très fraternel, quoi.
popular slogan and a bucket of pain. Supercomputer on a jolly crusade, massaging your forearms, holding your gaze, stealing your thunder, washing your brain, trying not to wake up sleeping dogs just because you're a lonely little hall of famer.
Jacques Weber lit Cyrano de Bergerac.
Un autre passage extrêmement évocateur, puisque au moment où Roxane demande à Cyrano, lui donne la parole et lui dit « Eh bien, quel mot me direz-vous » C'est peut-être le seul instant de la pièce où, d'un seul coup, Rostand accepte de bafouiller. Il y a un tel état de sidération que Cyrano ne sait plus quoi dire. Et c'est ce qui fait toute la beauté formidable, très poétique, de ce moment. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous ? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe. Sans les mettre en bouquet, je vous aime, j'étouffe, je t'aime. Je suis fou. Je n'en puis plus. C'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et là, je m'arrête, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce passage. Parce que ce qui est très beau au début, tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, s'écroule dans ce mauvais vers. Et c'est ça qui fait que, non, Cyrano n'est pas Hamlet. Il y a des mauvais vers, comme ça, d'un mauvais goût terrible. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Je regrette quand vous avez à le dire. Moi, j'entends la clochette du petit chien et je vois mémé son petit chien, quoi. J'ai entendu Victor Hugo a fait pareil. C'est beau, c'est un atermoiement incroyable. Et puis, naturellement, je ne pouvais pas finir cette émission sans vous dire cette chose célèbre. Un baiser, mais à tout prendre. Qu'est-ce ? Un serment fait d'un peu plus près. Une promesse plus précise. Un aveu qui veut se confirmer. Un point rose qu'on met sur l'i du verbe aimer. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Un instant infini. qui fait un bruit d'abeille, une communion ayant un goût de fleur, une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter au bord des lèvres l'âme. C'est une émission préparée par Perrine Malinge, prise de son Corentin Rouchy, réalisation Maria Pasquet, programmation musicale Jean-Baptiste Audibert.